Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand s'est équipé aujourd'hui sur Europe 1 d'une saharienne, d'une paire de jumelles et d'un bon fusil. Oui. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Il n'en faut pas moins pour se lancer comme nous allons le faire sur les traces d'un couple de lions gigantesques, forts comme des bœufs, rapides comme la foudre et qui, le détail à son importance, se nourrissent essentiellement de chair humaine.
Ah oui, d'accord.
L'histoire se passe en 1898 au Kenya sur le chantier de construction du chemin de fer de l'Ouganda et si elle vous captive comme elle m'a captivé, je vous promets une heure assez dépaysante.
Et cette histoire incroyable est racontée dans un livre qui vient de sortir chez Perrin.
Oui, ça s'appelle Terreur dans la brousse et c'est signé Michel Louis, qui est mon invité. Il y a quelques années, un film avait également été tiré de cette histoire des lions de Tsavo. Ça s'appelait La proie et l'ombre, en anglais The Ghost and the Darkness. Et c'est Val Kilmer qui, aux côtés de Michael Douglas, interprétait le rôle du sergent-major Patterson que nous allons suivre pas à pas dans la brousse.
Alors n'hésitez pas à nous poser des questions sur cette histoire en particulier ou plus généralement sur les lions. Michel Louis les connaît bien.
Ah ben oui, il faut dire que dans son zoo d'Amnéville, il en possède un certain nombre.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Il est midi, ce 1er mars 1898, quand le bateau à vapeur glissant sur une mer d'huile arrive en vue de Mombasa, qui alors est la capitale du Kenya. Mombasa, autrefois fortifiée par les Portugais, se trouve sur une île. Le panorama est splendide. Imaginez des demeures toutes blanches qui se mélangent aux cocotiers, aux palmiers, aux manguiers, aux baobabs, énormes baobabs, tandis qu'en arrière-plan se déploient là-bas du côté du continent des côtes arborées. C'est un magnifique paysage. En descendant du steamer, John Henry Patterson, qui est ingénieur militaire, qui est sergent-major dans l'armée britannique, a du mal à contenir sa joie. Il a 31 ans, Patterson, et il s'est vu confier enfin une mission qu'il estime à sa mesure, la construction au Kenya, sur la rivière Tsavo, d'un pont ferroviaire, un pont qui va être l'élément crucial de ce fameux chemin de fer de l'Ouganda, sur lequel le gouvernement de sa gracieuse majesté entend s'appuyer pour consolider la suprématie anglaise dans cette partie orientale de l'Afrique. Une suprématie qui, à l'époque, est très sévèrement contestée par les Allemands, notamment. Le chantier a pris beaucoup de retard, il faut le dire, et c'est le Premier ministre lui-même qui a décidé de déléguer sur place un homme efficace. Or, cet homme efficace, c'est Patterson. Le jeune ingénieur militaire a quitté l'Angleterre avec enthousiasme, même s'il a quand même dû laisser derrière lui son épouse Elena, qui est enceinte de 3 mois. En effet, Patterson voue depuis l'enfance une véritable passion à l'Afrique, à ses paysages, à sa faune, bien entendu, qu'il connaît sur le bout des doigts. Patterson a dévoré les récits des grands explorateurs, les Speke, les Livingstone, et depuis le petit train qui, quelques jours après son arrivée, le transporte vers Tsavo, donc vers les chantiers dont il va devoir s'occuper. Il est là en compagnie de 2 responsables de la ligne ferroviaire. Depuis le petit train, ses yeux ne sont pas assez grands pour admirer tous ces zèbres nerveux, ces girafes effeuillant tranquillement des acacias et ces gazelles qui fibrent comme ça, comme des petites ombres parmi les broussailles. Enfin, à 130-140 km environ dans les terres, Patterson découvre la gare de Tsavo. Enfin, si je dis la gare, imaginez, hein, ça ressemble un peu aux gares du Far West, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, avec un quai de planches, et puis au-delà, la fourmilière immense et poussiéreuse, assez désordonnée du reste du chantier, et ce camp où s'entassent les baraquements de fortune et les tentes. Tsavo, dans le dialecte de la tribu Akamba, ça signifie la tuerie, c'est le lieu où l'on massacre. Patterson le sait, ça, évidemment, mais il ne peut pas deviner à quel point cette appellation va se révéler prémonitoire. Le lieu a mauvaise réputation parmi les autochtones. Il serait, dit-on, hanté par le démon. On sait que c'est à cet endroit que depuis des siècles, les marchands d'esclaves, quand ils font ces sortes de longues colonnes d'esclaves qu'ils emmènent du côté de vers la mer, vers les côtes, c'est à cet endroit qu'ils avaient l'habitude d'abandonner les hommes malades ou trop faibles pour continuer. Une habitude que les lions de la région ont remarquée sans aucun doute et dont ils se sont accoutumés à tirer profit. En 1898, on peut dire que ces lions sont devenus mangeurs d'hommes, et d'autant plus que quelques années plus tôt, une épidémie de peste bovine a décimé les troupeaux d'herbivores, qui sont leurs garde-manger habituels. L'installation d'un immense chantier ferroviaire, évidemment, n'a pas arrangé les choses. Et l'on peut dire que l'endroit est un endroit dangereux. Alors pour le moment, notre ingénieur a, si j'ose dire, d'autres chats à fouetter. Pendant 2 semaines, il prend le pouls du chantier, il fait le point, il réorganise les équipes, il remet de l'ordre dans l'émission, etc. Et c'est le 23 mars seulement, que, de façon incidente, un chef d'équipe l'informe que l'avant-veille, un ouvrier indien affecté au forage du tunnel a disparu. Comme avaient disparu encore la veille 2 ouvriers noirs des Swahilis. Or, explique le chef d'équipe, la rumeur attribue ces disparitions à des lions. Oh, Patterson commence par hausser les épaules. Il croit plutôt à des désertions spontanées. Seulement, son serviteur indien le détrompe. « Oh, c'est vrai, Sahib, dit-il. Il y a un mangeur d'hommes à Tsavo. Et beaucoup d'hommes vont mourir. »
Un extrait de Sous les étoiles, composé par Hans Zimmer et Elton John, bande originale, vous l'avez reconnu, du film Le Roi Lion.
Évidemment. Alors à l'aube du 30 mars, c'est Michel Louis qui nous raconte ça dans son récit palpitant sur les lions mangeurs d'hommes de Tsavo. Le sergent-major Patterson est réveillé en sursaut. Une dizaine d'ouvriers, ils sont là complètement transis de peur, tremblants de tous leurs membres. Ils viennent l'avertir que son contremaître indien, qui s'appelle Ungan Singh, a été saisi dans sa tente par un lion, qu'il a été tiré par le fauve au dehors et emporté pour être dévoré. Un des témoins lui raconte la scène. Il était à peu près minuit. Je venais de me réveiller brusquement. Un lion énorme a passé sa tête par l'ouverture de la tente. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était un lion, Sahib, mais un lion grand comme une vache. Il a saisi dans sa gueule la gorge de l'homme le plus proche, c'est-à-dire Ungan Singh, qui s'est mis à hurler et à enserrer le cou du lion dans ses bras. Mais le lion l'a sorti de la tente à reculons pendant... peut-être 1 minute, nous avons entendu des bruits de lutte et des grondements féroces, et puis plus rien. On se met aussitôt en quête des restes du malheureux contremaître, et pas très loin du camp, derrière un bosquet, tout un attroupement d'oiseaux charognards le désigne, cet endroit le désigne, ces restes. Le sol est jonché de sang, il y a des lambeaux de chair et d'ossements humains, la tête intacte est retrouvée à quelques mètres, les yeux grands ouverts, figés dans une expression de terreur. Mais au-delà de ce tableau horrible, de ce tableau terrible, ce qui frappe Patterson, c'est la présence au sol de nombreuses traces assez profondes. Il y a bien là 2 séries d'empreintes. L'ingénieur a compris, ce n'est pas un lion, il va devoir combattre 2 lions en réalité. « Je les attends, se dit-il, parce qu'ils vont revenir. » Et le soir même, Patterson est en embuscade sur un arbre tout proche de la tente du pauvre Ungan Singh, armé de sa carabine 303. Et d'un pistolet à 12 coups. Il est rejoint par les compagnons de tente du défunt contremaître, parce que ces gens-là sont traumatisés, évidemment, et ils le supplient de le laisser monter dans l'arbre avec lui. Alors ils se font de la place comme ils peuvent, et commence une très longue veille, au cours de laquelle Patterson pourrait jurer avoir aperçu dans l'ombre, l'espace d'un éclair, un œil de fauve qui le fixait. On entend bientôt des cris au loin, oh, des cris d'épouvante. Ça vient d'un petit camp isolé à 1 kilomètre de la rivière. Et à l'aube, on apprendra que là-bas, un lion a déchiré une tente d'un coup de griffe, qu'il y a saisi un ouvrier dans son sommeil et l'a emporté pour le dévorer. On imagine l'ambiance au petit matin sur le chantier. Cette fois, ce ne sont plus des rumeurs qui courent parmi les hommes. C'est une vraie inquiétude qui commence à se manifester. Ce sera bientôt la peur, une peur qui, pour des mois, s'empare maintenant de Tsavo.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un récit qui vous relate aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire des lions mangeurs d'hommes de Tsavo, Franck.
Pendant des semaines, le sergent-major Patterson ne va pas arrêter de traquer ces deux lions qui, sur son chantier de Tsavo, en plein Kenya, sont en train de semer la panique. On peut dire que ces équipes sont vraiment très, très inquiètes et elles ont des raisons de l'être. C'est épuisant ça pour Patterson parce que chaque soir, après une journée de travail, il se met à l'affût quelque part et guette de longues heures la venue des fauves. Seulement ces derniers sont malins évidemment et comme s'ils prenaient plaisir à déjouer les pièges tendus par Patterson, ils ont choisi d'attaquer chaque nuit dans un quartier différent. Et une fois le jour revenu, eh bien le guetteur s'en va prendre quelques heures de repos, il apprend généralement la mauvaise nouvelle et il apprend à quel endroit a eu lieu l'horreur. Et puis, il repasse au chantier et dès qu'il peut dans l'après-midi, il se met en quête du repère des lions, etc. Vous voyez un peu la vie qu'il mène. Et tout ça en vain. Pendant ce temps, le nombre des victimes s'accroît. 10 morts, 12, 16, 18, les hommes des différents points du chantier se mettent à se regrouper le plus possible, ce qui donne pour eux une sorte de sentiment de sécurité, j'ai bien dit un sentiment. Mais ni les regroupements, ni les feux de camp la nuit, ni les veilles de Patterson, ni ses virées diurnes du reste, rien n'y fait. Désormais, presque chaque nuit, les lions de Tsavo viennent chercher leur tribu de champs, de sang, de chair et d'os, des os qu'ils font craquer à plaisir dans la nuit pendant leur festin, parfois tout près des tentes. C'est une véritable épouvante qui peu à peu s'installe sur ces chantiers de Tsavo.
Nouvel extrait sur Europe 1 de la bande originale du film Le Roi Lion, l'histoire de la vie.
Alors la peur s'installe sur place évidemment, et plus s'installe cette peur et plus les ouvriers rechignent, on les comprend. Ils songent à la grève, ils menacent de partir et Patterson doit les haranguer. « Ces lions, leur dit-il, je les tuerai, je vous le promets. Mais en attendant, nous allons construire tous ensemble autour de chaque camp une barrière d'épines infranchissable avec une seule ouverture et qui sera fermée à la tombée de la nuit par le chef de camp. Les Africains font tout ça pour protéger leur village, explique Patterson. Pour les protéger contre les lions, et c'est efficace, on appelle ça une boma. Il y en a d'ailleurs une autour du camp hôpital et vous ferez brûler des feux toutes les nuits à l'intérieur de chaque boma. » Alors on se dit que c'est peut-être une solution, ça. Aussitôt les hommes se mettent au travail, la fortification des camps, si je puis dire, par ces barrières de ronces, présente au moins le mérite de les remotiver, tout le monde met la main à la pâte, et le soir même, chaque campement est désormais entouré de son infranchissable haie d'épines. Infranchissable, peut-être pas tant que ça. Trois nuits plus tard, on est là entre le 21 et le 22 avril, le médecin auxiliaire au beau milieu du camp hôpital est réveillé en sursaut. Je cite le récit de Michel Louis. Il se lève, ouvre la porte de sa tente et voit avec horreur un lion qui le regarde à quelques mètres. Il n'en croit pas ses yeux. Ce lion n'est pas grand, il est gigantesque. Presque aussitôt, le fauve bondit vers l'homme qui saute en arrière, renversant une armoire contenant du matériel médical. L'ensemble se fracasse au sol avec un tel vacarme de verre brisé que le lion, un instant effrayé, sort de la tente en grondant. Le pauvre médecin auxiliaire, blême de terreur, est incapable de faire un geste. Le lion va-t-il revenir ? Non. Il se dirige vers une autre partie de l'hôpital et rôde quelques instants autour d'une tente dans laquelle 8 patients sont couchés. Se dressant de toute sa hauteur, il laboure la toile dans tous les sens avec ses griffes pour la déchirer et bondit à l'intérieur comme une furie. Un effroyable concert de grondements hargneux et de hurlements de terreur retentit à travers tout le district. Soudain, la tente s'écroule sur la mêlée, le lion rugit encore plus fort et envoie des coups de patte dans tous les sens, toutes griffes dehors, puis ressort de la tente en emportant l'un des malades. Celui-ci manifestement est déjà mort. Le lion le traîne jusqu'à la boma et cherche quelques instants le point faible par lequel il a traversé la barrière d'épines à l'aller. Puis il tire sa victime à travers et disparaît. Et la BOMA, me direz-vous, perméable, la BOMA. Un examen rapide montre que le lion l'a traversée tranquillement dans les deux sens, presque comme si elle n'existait pas. Là, on peut dire que Patterson, à ce moment, se sent découragé. Mais c'est pourtant pas le moment de céder à l'abattement. Alors il redouble d'efforts et de volonté. Il lui faut au plus vite, et coûte que coûte, mettre ces deux fauves hors d'état de nuire. Et pendant ce temps-là, imaginez le chiffre des victimes, hein, qui augmente constamment, 19, 24, 27. Et puis soudain, pendant deux mois, les lions se font oublier. Ils paraissent avoir quitté le secteur de Tsavo. Du reste, on en a bientôt la preuve, puisqu'ils se mettent à chasser l'homme beaucoup plus au nord, du côté des camps avancés de la ligne de la tête de ligne. C'est d'ailleurs là que la famille de l'ingénieur Stevens, notamment, est massacrée par eux. Alors c'est affreux, bien sûr, mais en même temps, la nature humaine étant ce qu'elle est, on aurait plutôt, du côté de Tsavo, tendance à souffler. Les semaines passant, on en finirait presque, sinon, par oublier, du moins par penser un peu moins souvent à la menace nocturne. Et tout ça jusqu'au 10 août seulement. Parce que là, d'un seul coup, ce soir-là, comme souvent, nous dit Michel Louis, un certain nombre d'ouvriers ont tiré leur lit de camp hors de la tente pour dormir à la belle étoile. Un grand feu éclaire toute la partie centrale. Soudain, le veilleur de nuit, assis non loin du feu, entend des bruits inhabituels. Il fixe la BOMA, se frotte les yeux, regarde à nouveau et bondit sur ses pieds en montrant du doigt un point précis de la barrière épineuse et en hurlant « Simba, Simba !» ce qui veut dire le lion. En quelques secondes, tous les ouvriers sont debout et découvrent, avec horreur, un grand lion en train de forcer le passage à travers la BOMA. La plupart se mettent à courir dans tous les sens en hurlant de terreur. Quelques-uns cependant gardent leur sang-froid, saisissent des pierres et des torches enflammées et les projettent en direction du fauve. Mais ils obtiennent pour seul résultat quelques grondements de rage et bientôt le lion fait irruption au milieu du groupe effrayé. Jamais autant de monde ne l'a vu d'aussi près. Il ne porte que quelques lambeaux de crinière, mais il est immense, on n'en a jamais vu d'aussi gros. Avec un regard mauvais, le lion passe au petit trot au milieu des ouvriers, se dirigeant délibérément vers sa victime choisie. Il se jette sur un pauvre Swahili, lui emboîte la tête dans sa gueule et le tire à travers l'épaisse barrière d'épines. À l'extérieur, il est rejoint aussitôt par l'autre lion. Oui, les mangeurs d'hommes sont de retour.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Précisément au cœur de l'histoire des fauves anthropophages de Tsavo au Kenya, Franck.
Et oui, c'était en 1898. Alors, tout le monde connaît évidemment le rugissement du lion, mais ce que j'aimerais vous faire entendre comme ça, juste pour mémoire et pour se mettre dans l'ambiance, c'est son grognement tellement grave, vous savez, absolument effroyable. Quand vous avez ces notes bien graves là dans la nuit, ça fait forcément oui. Et ce grognement, on peut dire qu'à partir du mois d'août 1898, il va hanter les nuits de ceux qui se savent si vulnérables dans le camp de Tsavo. Parmi les ouvriers, cette fois, la révolte gronde. Patterson doit faire face à une véritable mutinerie. Et alors qu'une cinquantaine d'hommes ont déjà disparu sous les crocs des grands fauves, il se voit obligé d'en appeler aux forces de l'ordre. Et le 14 octobre, à la tombée de la nuit, les grands prédateurs attaquent la gare de Tsavo. Ils terrassent un pauvre Swahili. Il s'en empare et, au lieu d'aller le dévorer tranquillement dans la brousse, eh bien, ils viennent faire leur affreux festin tout près du camp de Patterson, qui est là et qui, impuissant dans cette nuit noire, en est réduit à se laisser narguer par des fauves qui, visiblement, l'ont identifié et ne cessent de le défier de la façon la plus choquante. On vit alors une espèce d'escalade dans l'horreur. Je cite Michel Louis. Une nuit, dans l'une des nombreuses tentes du camp principal, six Africains ont été réveillés par les rugissements annonçant la sinistre approche des démons. Il faut vous dire que les hommes sont de plus en plus convaincus qu'il s'agit de démons et non pas d'être de chair et d'os. Ils en ont l'habitude, hélas, et attendent dans l'angoisse les cris d'horreur qui annonceront un nouveau drame dans l'un ou l'autre des camps. Mais c'est un pan de leur propre tente qui se déchire alors brutalement de haut en bas. Aussitôt, les deux lions font irruption à l'intérieur et les six hommes se lèvent d'un bond en hurlant. Mais mis au comble de l'excitation ou se croyant eux-mêmes attaqués, les fauves se livrent alors à une véritable frénésie meurtrière. L'un d'eux laboure le torse d'un homme d'un coup de griffe, puis se jette sur une autre victime. L'autre lion bondit sur un des malheureux Swahili qui lui enserre la nuque dans ses mâchoires et la brise d'un coup. Un homme tente de fuir mais retombe lourdement, le visage à moitié arraché. Combien de temps la sanglante mêlée dure-t-elle ? Une minute à peine, nous dit Michel Louis. Tout ça va toujours très vite et d'une très grande violence. Alors, je ne vous le dis pas à chaque fois, mais il ne faudrait pas croire naturellement que Patterson reste bras croisés face à cette recrudescence d'attaques léonines. Ses veilles, ses traques, ses pièges sont incessants, mais ils restent sans effet, malheureusement. Un grand et célèbre chasseur de fauves vient-il lui proposer son assistance ? On ne retrouvera bientôt que quelques bouts de ses vêtements maculés de sang dans la brousse. L'armée elle-même vient prêter assistance à Patterson. On dispose des tireurs dans une grande cage à deux compartiments. Ça forme un piège, si vous voulez, dont les tireurs sont les appâts. Mais lorsqu'au beau milieu de la nuit, l'un des lions finit par y pénétrer, les soldats sont tellement terrifiés et terrorisés qu'ils perdent leurs moyens et laissent à l'animal le temps de détruire la cage et de s'en échapper. Au milieu de l'automne, les deux fauves ont fait largement plus de 100 victimes. Il n'est plus possible de retenir les ouvriers à Tsavo, évidemment, et d'autant moins que la plupart sont convaincus plus que jamais du caractère surnaturel des deux prédateurs. Ce ne sont pas des lions, ce sont des démons qui prennent la forme de lions, ils en sont convaincus. Du reste, ils ont un nom ici, ces démons, on les appelle fantômes et ténèbres, hein, d'où le titre Ghost and Darkness, là, le titre du film. Patterson restait avec quelques fidèles dans un camp beaucoup mieux défendu, parce que beaucoup plus resserré aussi. Patterson n'a pas dit son dernier mot. Il s'est fait construire une plateforme de veille à 3,50 m, on appelle ça un machan, et le 9 décembre 1898, il s'y installe vers 18h, la nuit tombe, et le lion finit par approcher. Soudain, nous explique Michel Louis, Patterson perçoit un grondement sourd derrière lui. Il a juste le temps de se retourner pour distinguer le lion à moins de 5 mètres du machan, bandant tous ses muscles pour l'assaut final. Une détonation, Patterson a visé et tiré presque instinctivement, le réflexe de la dernière chance, le coup frappe le lion en plein élan, la détonation est aussitôt suivie d'un rugissement terrifiant, tandis que le prédateur retombe lourdement. Cette fois, ça y est, ça paraît incroyable, mais l'un des deux lions, en tout cas, est mort. Patterson a eu sa peau, si je puis dire, et quelle peau ? C'est un animal gigantesque, un animal qui n'a pas de crinière, on va le décrire évidemment tout à l'heure. Une chose est sûre, c'est un soupir de soulagement extraordinaire dans tous les camps. Ouf, le lion est mort.
Le lion est mort ce soir.
Oui, c'est la énième reprise de cette chanson, de ce chant tribal. Du reste, le lion est mort ce soir. On entendra tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission la première version, celle de 1939, qui nous vient d'Afrique du Sud. Le brave John Patterson a donc tenu parole. Il a eu raison du premier des deux lions de Tsavo. Il a vengé ses ouvriers et ses amis victimes de l'animal. Mais je dis bien, il y a deux lions à Tsavo et Patterson est bien décidé à aller jusqu'au bout. Alors tout à l'heure, après le flash de 14h, en compagnie de Michel Louis, nous verrons ce qu'il est advenu du deuxième mangeur d'hommes. Et puis, parce que c'est très passionnant et que nous avons toutes sortes d'éléments de réponse, on essaiera de répondre aux questions que pose cette incroyable aventure, parce que vous avouerez tout de même qu'il n'est pas fréquent que deux malheureux animaux arrivent comme ça à décimer plus de 140 personnes.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On vous retrouve, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Michel Louis, directeur général et fondateur du parc zoologique à Amnéville, c'est en Moselle. Un parc qui fête cette année ses 25 ans. Je souhaitais rappeler aux auditeurs que c'était le moment où jamais poser des questions sur les lions. Le spécialiste est avec nous.
Mais oui, il est là, donc profitons-en.
Europe1.fr et le réseau social bleu que vous connaissez qui commence par la lettre F.
Ce parc zoologique d'Amnéville qui se trouve au nord de Metz a donc 25 ans. C'est vous qui l'avez fondé, qui vous en occupez, qui en avez fait un très grand succès, Michel Louis, il faut le dire.
Ça a grandi au fil des années pour devenir aujourd'hui effectivement un très grand parc avec 2000 animaux appartenant à
trois. Et des animaux dont certains très rares qu'on ne peut voir quasiment que chez vous.
Oui, tout à fait. Bon, on est très impliqué dans les programmes d'élevage européens qui contribuent à sauvegarder ces espèces menacées.
Alors, nos deux lions de Tsavo, je les ai sous les yeux, en tout cas ce qu'il en reste, parce qu'il faut savoir qu'après avoir été mis à mort, on va voir comment le deuxième est mort dans un instant, évidemment, Patterson a conservé leur peau, a conservé leur squelette, et qui se trouve aujourd'hui reconstitué plus ou moins bien, enfin naturalisé, on va dire, dans une sorte de vitrine, dans un diorama à Chicago. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là?
Oui, au Field Museum de Chicago, qui est un des plus grands musées de sciences naturelles du monde. Bien, en fait, Patterson avait fait les descentes du lit avec les deux dépouillés.
Ça devait faire des grandes descentes de lit, ça dit presque des tapis de salon.
Tout à fait, mais vous savez, les descentes de lit, il reste plus grand-chose des pattes, en fait. Et quand... Alors, en fait, les Américains sont beaucoup intéressés à cette affaire parce que c'est Roosevelt, le président, donc...
Theodore Roosevelt, qui était un grand chasseur devant l'éternel.
Absolument, et qui s'est passionné pour cette affaire, qui a d'ailleurs demandé à Patterson d'écrire l'ouvrage sur ses aventures, parce que Patterson était assez modeste de nature et avait juste écrit une relation de 7 pages.
Dans la presse, oui.
Et puis il a voulu que dans une grande ville américaine on puisse présenter donc les restes de ces lions. Alors le taxidermiste a redonné vie, enfin comme il a pu, aux deux descentes de lit, mais le résultat est assez médiocre parce que il manque de la matière. Les membres sont trop minces, la tête trop allongée. Je les ai vus. Alors c'est vrai qu'ils gardent leur taille, ils sont très grands, mais c'est pas merveilleusement bien.
Quand vous dites qu'ils sont très grands, la hauteur au garrot c'est très élevé, hein.
Oui, 1m16 pour le premier. 1m21 pour le deuxième. 1m21, c'est probablement un record inégalé. C'est-à-dire que c'est aussi grand que les plus grands tigres sibériens.
C'est ça, oui. C'est un lion qui a plutôt la taille d'un petit cheval, à la limite. Hein. C'est gigantesque.
Disons d'un grand tigre. Aujourd'hui encore, on rencontre à Tsavo des lions d'une taille tout à fait exceptionnelle, qui sont particuliers.
Alors, ces lions, ils sont gris.
Hein, oui, ils ont une couleur effectivement grisâtre qui est assez particulière, qui certainement dont le but est certainement le camouflage dans la nika, c'est-à-dire une brousse très sèche, très grise, hein, pleine de poussière. Ils sont très grands, ils ont une crinière inexistante ou presque.
Oui, c'est-à-dire quand on les voit comme ça, si on ne savait pas, on pourrait presque les prendre pour des lionnes en fait, hein, oui, puisqu'ils n'ont pas de crinière, ou quasiment pas.
Oui, voilà, quelqu'un qui n'est pas spécialiste des lions pourrait les prendre pour une femelle. Bon, en fait, la tête est plus carrée quand même. Hein. Et des recherches menées par les scientifiques américains révèlent aussi que le crâne est un peu plus petit que chez les autres lions, ce qui amène certains scientifiques, comme Peter Enyosk, à penser qu'il pourrait s'agir d'une sous-espèce différente.
C'est-à-dire que ce serait peut-être, comme en plus, on va voir ça tout à l'heure, comme ils avaient un antre dans la montagne, hein, dans les rochers, ils font penser, et par leur mode de vie, et par leur morphologie, et par leur attitude aussi peut-être, à des lions qui ne seraient pas tout à fait de la même famille que les autres et qui descendraient de certains lions préhistoriques.
Voilà, qui pourrait s'agir d'une sous-espèce. Moi, je suis assez partisan de cette théorie de Peter Enyosk. Ça semble démenti par les recherches ADN qui révèlent que tous les lions depuis l'Atlas, enfin, il n'y en a plus qu'en zoo, oui. Jusqu'au Cap, ont le même ADN. Mais moi, je dis l'ADN, c'est un critère de classification, un bon critère, mais pas le seul. Si on se base uniquement sur l'ADN, on aboutit à des énormités.
Oui, mais décidément, nous avons créé un club des sceptiques de l'ADN ici.
La reine des preuves.
Julia, de quoi je parle, et un certain nombre de nos auditeurs aussi. Alors, nous allons dans un instant voir comment est mort le deuxième lion de Tsavo. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Patterson, quand il arrive là-bas, n'est pas un chasseur de lions. Hein. C'est pas...
Non, je pense même qu'il n'a jamais vu un lion de sa vie. Oui. Il a eu l'occasion de chasser le tigre en Inde, par contre, mm-hmm. puisqu'il a déjà construit plusieurs ponts en Inde. Et bon, il est passionné par l'Afrique, par la faune africaine, mais bon, quand il a affaire à ses lions, il se dit, je vais faire comme avec les tigres, construire des macanes, des plateformes surélevées, faire des veilles nocturnes. Et avec des tigres ou des lions, je dirais normaux, entre guillemets, en général, ça marche. Mais avec des animaux à comportement déviant, qui sont devenus mangeurs d'hommes, qui nous ont étudiés, qui n'ont plus peur du tout de l'homme, c'est très difficile.
Alors, ce qui est assez frappant et très beau dans votre livre, c'est qu'on voit que ce pauvre Patterson est constamment surpris par les prouesses, si l'on peut dire, les terribles prouesses des deux fauves. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ne les croyaient pas capables d'aller aussi loin, aussi bien dans leur air de chasse que dans la violence des attaques, que dans la très grande subtilité avec laquelle ils déjouent systématiquement les pièges qui leur sont tendus.
Oui, mais tout à fait. Mais on est toujours surpris quand on lit les récits des fauves mangeurs d'hommes, que ce soit par Patterson, les lions de Tsavo, ou Jim Corbett avec les tigres et les léopards, parce qu'on a affaire à des animaux qui ordinairement ne considèrent pas l'homme comme une proie, l'évitent, en ont peur. Mais quand ils bravent cet interdit, alors pour différentes raisons qu'on pourra voir tout à l'heure, ce sont des chasseurs aussi. Et ils élaborent une stratégie, et là effectivement, on est toujours surpris.
Comment est mort le deuxième lion de Tsavo? Je vous promets qu'on y vient là tout de suite, dans un instant.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Souhaiter faire un clin d'œil, c'était la journée ou jamais. Hein.
Ah oui,
l'indicatif de la série télévisée Daktari.
Série culte de mon enfance, j'adorais ça, Daktari.
Mais je voyais danser d'ailleurs en studio.
Oui, je voulais devenir vétérinaire, mais pour les animaux sauvages, évidemment, uniquement à cause de ou grâce à Daktari. Bon, alors ça nous amène, ça évidemment, à ces questions de faune sauvage en Afrique. Comment est mort le deuxième lion? Alors, ce qu'il faut dire et rappeler quand même, Michel Louis, c'est que dès le 2 décembre, tous les ouvriers décident de quitter le chantier. Alors ils s'en vont dans le dernier train qui est bondé comme ces trains indiens, là on peut très bien imaginer. Tout le monde s'en va et le pauvre Patterson reste là avec quelques dizaines de personnes.
Oui, en tout cas c'est 40 personnes. Mmh. Ça a été un exode massif, mais qui a permis effectivement d'aboutir à la solution du problème, puisque moins de 40 personnes, ça pouvait vraiment être concentré sur un camp qui était tout petit.
On peut faire un fortin là, littéralement. Hein.
Voilà, avec 3 ou 4 tireurs, avec un tir croisé, donc qui attendait les lions. Mais néanmoins, ils ont réussi à pénétrer dans ce mini-camp retranché et à emporter des gens et à les dévorer. Alors, à la fin, le spectacle était hallucinant. Il y a des ouvriers qui s'enterraient dans le sol pour dormir avec des planches en bois par au-dessus. Mais surtout, les acacias ressemblaient à des sapins de Noël. Les lits, les matelas étaient suspendus.
C'est
orange.
Ça, on avait attaché les matelas dans les branches et voilà. On dormait là-dessus, évidemment.
Voilà, et ça, évidemment, c'était efficace puisque le lion ne grimpe pas sur un arbre de haute tige, hein, il est trop lourd.
Néanmoins, il a bien failli grimper sur le machan, là, c'est-à-dire sur l'espèce de petite plateforme qu'avait fait bâtir au milieu du camp Patterson. Ça, c'est le premier lion, donc.
Voilà, hein, il a bondi dessus.
Il a bondi. Hein,
vous savez, Macan, il n'était pas très haut sur Macan.
3 mètres et demi, vous dites.
3 mètres et demi, c'est limite, hein, pour un animal qui est bien motivé. Il peut s'accrocher, si vous voulez, à 3 mètres de haut. Et puis, vous savez, un animal qui pèse certainement au moins 250 kilos et qui, en furie, ça fait du dégât.
Alors, le premier lion, il a été tué, j'allais dire, par hasard. C'est vraiment quand on sait tous les efforts qu'a finalement rassemblé Patterson. C'est pas très gentil, mais en tout cas, il a tiré comme ça, au jugé, très vite, parce qu'il faut vraiment aller très vite. Vous dites que la charge d'un lion, ça peut aller jusqu'à 80 km/h.
Selon certains auteurs, jusqu'à 80 km/h.
C'est-à-dire que c'est comme une voiture qui vous fonce dessus.
C'est foudroyant. Même les chiffres un petit peu plus bas qu'on retient souvent, 60-67 km/h, pour un animal de cette taille, c'est impressionnant. Vous savez, ça va très vite.
Alors le deuxième lion, à ce moment-là, s'est retrouvé tout seul. Il a d'abord, dites-vous, été un peu désemparé, évidemment.
Oui, bien sûr, parce qu'il chassait toujours avec son compagnon. Mais rapidement, il s'est ressaisi, il a repris le chemin des camps. Et il a réussi à emporter deux ouvriers, d'où des précautions encore plus importantes qui ont été prises. Et finalement, il y a peu de morts après qu'on a exterminé le premier lion, parce que les lits étaient en haut des arbres, il n'y avait plus personne qui était vulnérable, ou beaucoup moins. Et c'est ce qui a permis finalement d'en terminer avec cette affaire. Parce que la dernière nuit, donc la nuit du 26 au 27 décembre...
Alors, le premier lion est mort dans la nuit du 9 au 10 décembre 1898. Voilà. Et le deuxième, donc, 15 jours plus tard, dans la nuit du 27 au 28 décembre.
Voilà, exactement. Un peu plus de deux semaines après. Et là, le lion a pénétré à l'intérieur du camp, pour s'en prendre bien sûr à des êtres humains, pour chercher une victime. Il s'est trouvé sous un tir croisé. Il a fui et dans sa fuite, il emportait un âne. Alors, un âne, c'est quand même un animal assez lourd. Patterson, dès l'aube, bien sûr, a suivi la trace avec quelques personnes, notamment son porteur Maïna, qui était très dévoué, mais pas très courageux. Et il a, assez rapidement, au bout de 600-700 mètres, aperçu vaguement le lion, enfin c'est, vous savez, la touffe de poil au bout de la queue qui a trahi sa présence.
Oui, il flagelle l'aile de sa queue,
voilà,
de l'air de sa queue.
C'est ça. Et à un moment, le lion a un petit peu levé la tête, Patterson a tiré, il l'a raté, mais le lion a grondé. Et,
donc il était touché là.
Il était touché. Il était touché, mais alors vous savez, poursuivre un lion blessé dans une jungle épaisse de broussailles, d'épines, c'est vraiment très difficile et très dangereux. Et après un temps assez court de cette traque, tout d'un coup, c'est le lion qui a une trentaine de mètres, est venu droit sur le petit groupe, les a chargés. Alors Patterson a tiré, mais vous savez, ajuster un tir dans des conditions pareilles, c'est pas facile, il a loupé le lion... Il a tiré, il a tendu son bras vers son porteur qui avait une deuxième carabine. Seulement le porteur, terrorisé, s'était envolé avec une grande élégance dans l'arbre qui était à côté. Et Patterson n'a plus qu'une solution, c'est de suivre son porteur et de grimper dans l'arbre en vitesse parce que le lion était sur eux. Et là, bien sûr, il a eu le fusil du porteur. Et heureusement, parce que le lion s'est hissé contre le tronc, a essayé de grimper sur l'arbre. Mais bien sûr, là, il ne pouvait pas grimper à la verticale, pas un animal de ce poids. Mais vous savez, c'est toujours dangereux, parce qu'il s'accroche avec les griffes, on ne sait jamais
Les pattes sont énormes, évidemment.
Ah, c'est très impressionnant, oui.
Et ce qui est fort, c'est qu'au moment où on lui tire dessus, là, et vraiment à la fin, on le tue à coups de... Ce sont des balles qu'on tire, hein. Le lion continue à se battre. Il se débat jusqu'au dernier moment.
Jusqu'au dernier moment, les chasseurs, vous savez, les chasseurs de l'époque des safaris disaient toujours, le lion ne meurt pas d'un choc. Hein. Il faut vraiment atteindre un point vital, le cœur ou le cerveau. Et jusqu'au dernier moment, le lion a essayé de charger en rampant la dernière fois.
C'est incroyable.
Et finalement, bon, une cinquième balle l'a terminé.
Alors là, cette fois, c'est le moment de mettre cette version ancienne, cette version de 1939 du lion est mort. C'est la mort du deuxième lion, évidemment.
Solomon Linda, c'est donc la première version du lion est mort ce soir de 1939, Franck.
Et nos auditeurs réagissent, très nombreux du reste à réagir, et je les en remercie. Je ne peux pas tout lire, mais c'est Emmanuel Florent qui nous dit qu'il existe une reconstitution des lions de Tsavo, pardon, chez Planète Sauvage au Saint-Père-en-Ré en Vendée. Ça, c'est un de vos concurrents, en fait, Michel-Louis. Avec des lions, des lionnes classiques, avec la gare, des wagons, rails et autres objets d'époque, nous dit-il. François nous dit, j'ai moi-même vécu vécu un épisode inoubliable et effrayant au Kenya, une nuit où j'étais allé me coucher dans ma case au fin fond d'un lodge. Un lion est arrivé, reniflait juste le long de ma case. J'étais à la fois pétrifié et sous la curiosité. Une jeep de gardien est alors arrivée et l'a chassé loin du camp. Ça a été une expérience extraordinaire. C'est pour ça que je tenais tout à l'heure à faire entendre ce grognement tellement guttural, tellement puissant du lion. Il faudrait, me dit Patrick, inviter Michel Louis pour nous parler aussi, donc réinviter veut-il dire, pour nous parler de La Bête du Gévaudan, car son livre sur le sujet est excellent et je confirme, nous en avions d'ailleurs parlé dans une émission précédente, une année précédente. Michel Louis, en fait, c'est très étonnant ce qui s'est passé, cette attaque de lion qui ne mange quasiment que de la chair humaine.
Oui, alors on parle de lion, de tigre mangeur d'hommes, ce sont des cas exceptionnels. En général, ce sont les animaux qui sont malades, blessés, affaiblis, qui n'ont plus la force de chasser leur proie habituelle. Alors, le jour où l'occasion fait le larron, où il tue un homme enfin, ou une femme qui va chercher de l'eau à la source, ils réalisent que l'homme est la proie la plus facile à tuer et ils en prennent l'habitude. Quelquefois aussi, les tigresses qui élèvent leurs petits. Ça reste exceptionnel. Alors, il y a des cas, là on est en plein dedans avec Sabot, où des lions dans la pleine force de l'âge deviennent mangeurs d'hommes, mais toujours à cause d'un déséquilibre écologique qui les empêche de continuer leur proie habituelle, de poursuivre leur proie habituelle.
Alors on va voir où vivaient ces lions, parce que leur antre, leur tanière a été découverte, et vous-même vous y allez d'ailleurs tous les ans, vous allez nous raconter ça, Michel Louis.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes surtout toujours au cœur de la brousse.
Et au cœur de la tanière des fauves, puisque quelques semaines après la mort du second lion, donc on est là en février 1899, Patterson, au cours d'une de ses missions de reconnaissance, si je puis dire, va découvrir la tanière présumée des deux lions, Michel Louis.
Oui, vraiment par hasard, dans le lit d'une rivière saisonnière asséchée, il a découvert l'entrée d'une grotte, grande comme une petite chambre à coucher, vous savez, d'une hauteur d'à peu près 1,50 m, l'entrée suffisamment large pour laisser le passage à un animal d'1,20 m à 1,30 m.
Et là-dedans, il y avait toutes sortes d'ossements humains.
D'ossements humains avec des bracelets indiens, donc ce qui prouvait bien que parmi les cadavres, les ossements qui étaient là, beaucoup appartenaient aux Indiens qui travaillaient sur le chemin de fer.
Des fouilles ont été effectuées depuis, notamment en 1997, et on n'a pas retrouvé tous ces.
Oh non, bien sûr, c'était illusoire d'espérer en retrouver parce que deux fois par an, cette rivière a des crues. Et le lit est complètement inondé, donc tout ça a été lessivé, emporté depuis très très longtemps.
Et le fait que la tanière soit régulièrement inondée pourrait expliquer les 2 mois d'absence des fauves ou 3 mois d'absence, puisqu'on a raconté dans cette histoire, il y a un moment où d'un seul coup ils disparaissent, ils s'en vont vers les camps de tête de ligne qui sont beaucoup plus au nord, dans la direction de Nairobi. Et à ce moment-là, on a pu penser qu'ils étaient partis parce qu'il y avait eu une très grosse échauffourée et que ça avait quand même chauffé pour eux du côté dans le secteur de la gare. En fait, ils seraient partis. Dites-vous plutôt pour des raisons climatologiques.
Oui, je pense, parce que le fait que cette nuit-là, effectivement, l'un des deux lions a pris un coup de fusil sévère, puisque en fait, il a eu la moitié de la mâchoire fracturée. Mais ça ne suffit pas pour expliquer qu'il soit allé à 30 km plus loin attaquer. Non, je pense que comme il n'y a plus toute la nuit, c'est le déclenchement très brutal de la saison des pluies, ils ont trouvé leur tanière inondée, et peut-être l'un ajouté à l'autre, a fait qu'ils ont décidé de changer de terrain de chasse.
Il y a un détail que vous racontez qui est assez terrible, c'est la façon qu'ils ont de sucer le sang de leurs victimes. Ça donne un côté très vampire, très inquiétant. Alors qu'en fait, vous expliquez très bien dans l'annexe du livre, que dans une des annexes, vous expliquez qu'en fait, cette façon de procéder était surtout liée à l'aridité du climat.
Oui, absolument. Les prédateurs font souvent ça lorsqu'il fait très sec. Et là, vraiment, à Tsavo, dans cette zone entre Tsavo Est et Tsavo Ouest, la sécheresse est terrible. Et effectivement, pour s'hydrater, ils boivent le sang de leurs victimes. Ça n'a rien de vampire, mais c'est simplement un besoin vital.
Ce qui est certain, en revanche, et ça n'est pas un besoin vital, c'est que ces lions-là s'étaient habitués à la chair humaine et qu'ils y étaient peut-être habitués depuis des générations. Quelle est l'origine de cette prédilection des lions de Tsavo pour la chair humaine ?
Alors, il y a bien sûr le climat et la végétation très particulière, très sèche, très chaude. Les lions, à cause de cette végétation, vivent seuls ou en couple, chassent le buffle, vous imaginez, c'est des adversaires redoutables. Oui, ils sont très puissants, ils n'ont pas peur de grand-chose. Mais en plus, il y a, je dirais, les exactions des négriers, des trafiquants d'esclaves, qui, pendant plusieurs siècles, avait pris l'habitude, c'était la dernière étape avant Mombasa, d'abandonner à Tsavo les esclaves qui étaient malades, blessés, affaiblis, et les lions ont pris l'habitude de ces prophéties. Et puis ensuite, bien sûr, la peste bovine causée
mais
par...
qui avait décimé les troupeaux d'herbivores, en fait.
Tout à fait, c'est le bétail des colons, en fait, qui a provoqué ça. Et puis, alors, troisième étape, l'arrivée de plusieurs milliers d'ouvriers à cet endroit. Les troupeaux d'herbivores se sont enfuis. La plupart des prédateurs les ont suivis, mais pas tous. Ces deux lions, qui étaient deux frères, très certainement, se sont incrustés, et comme c'était déjà dans leur gène, sont devenus vraiment ce qu'on peut appeler des mangeurs d'hommes.
Alors, quand on voit le bilan de ces deux fauves, on se dit que ce sont les pires mangeurs d'hommes de l'histoire. Eh bien non, vous nous montrez qu'il y en a eu de pires encore, notamment des tigres.
Voilà. Alors, les deux lions de Tsavo sont quand même les pires sur le plan du nombre de victimes dans un temps donné. Mais effectivement, certaines tigresses, notamment chassées par Jim Corbett au début du XXe siècle, ont fait encore plus de victimes, mais sur une période beaucoup plus longue, sur une dizaine d'années. Et également, en Tanzanie, un groupe d'une vingtaine de lions ont fait plus de 200 victimes, mais là encore sur 10 à 15 ans.
Et puis, il faudrait parler évidemment de tous les autres animaux mangeurs d'hommes, mais ça, ce serait presque l'objet d'une autre émission. On pense aux requins, aux crocodiles, etc. Nous avons eu notre ration de frayeur.
Oui, aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là.
Avec cette terreur dans la brousse, l'histoire vraie des lions mangeurs d'hommes de Tsavo. C'est édité chez Perrin. Merci beaucoup Michel Louis. Vous allez repartir, j'imagine, dans votre parc zoologique d'Amnéville.
Immédiatement, en précisant bien que là, on a affaire à des animaux au comportement exceptionnel. De manière générale, aujourd'hui, c'est le lion et le tigre qui sont menacés à cause de l'homme et le pas l'inverse.
Et oui, bien sûr. Et vous les protégez là-bas, il faut le dire, et vous en faites naître dans votre zoo.
Bien sûr, il y en a beaucoup qui viennent au monde, aux zoos d'Amnéville, et on participe également à de nombreux programmes de conservation en milieu naturel.
Bravo. Bonjour Faustine,
bonjour,
notre lionne.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, j'ai les cheveux un petit peu comme ça, lionne. Merci d'être avec nous. Cet après-midi, on va évoquer un sujet difficile, les liens qu'entretiennent nos ados avec l'alcool. Un chiffre alarmant, 60% des enfants de 11 ans ont déjà goûté à l'alcool et ce chiffre est en perpétuelle augmentation. Excès à outrance, beach drinking. Comment expliquer cette addiction de nos jeunes à l'alcool? Comment en parler avec eux quand on est parent? Comment réagir également? On en parle pendant une heure. Vous pouvez nous joindre en direct sur Europe 1 au 39-21, Franck.
Oui, c'est un vrai sujet, me semble-t-il, mais comme souvent d'ailleurs.
Merci Franck.
Merci beaucoup. Et à demain, Julia.
À demain, Franck, pour une nouvelle histoire.